Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui a l'air toute simple comme ça, mais qui est un vrai casse-tête pour beaucoup.
Oui.
Comment on nourrit bien ses poules? Et on ne parle pas d'élevage industriel, hein, on parle de la petite basse-cour au fond du jardin.
C'est ça, dans un esprit bio, amateur et très souvent inspiré de la permaculture. Exactement. Et la source qu'on explore aujourd'hui pose un dilemme central. Est-ce qu'on doit se fier à la sécurité des granulés tout prêts, même bio, ou est-ce qu'on se lance dans l'aventure de l'autonomie avec une alimentation 100% naturelle?
C'est une excellente question.
On va donc essayer de décortiquer ces deux approches et peut-être une troisième voie pour y voir un peu plus clair.
Et c'est une question qui touche vraiment au cœur de la philosophie de la permaculture. Parce que dans cette vision, la poule, ce n'est pas juste une machine à pondre. Non, c'est bien plus que ça.
C'est un rouage essentiel de tout un écosystème. Elle transforme les déchets en ressources, elle aère le sol, elle mange les limaces.
Elle a un vrai rôle.
Son alimentation, du coup, c'est pas juste un carburant. C'est le lien qui la connecte à tout le reste du jardin. L'enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre cet idéal, ce cycle parfait, et la réalité biologique d'un animal.
Un animal qui a des besoins très précis pour être en bonne santé, j'imagine.
Des besoins très, très précis. Alors, commençons par la première option, la plus simple en apparence, les granulés industriels en version bio. La solution clé en main.
Voilà, l'article les présente comme ça, un aliment complet formulé par des nutritionnistes pour couvrir absolument tous les besoins de la poule. L'argument principal, c'est l'équilibre parfait.
C'est ça.
On parle de 16 à 18% de protéines, de calcium et surtout de deux acides aminés essentiels, la lysine et la méthionine.
Oui.
En gros, c'est la promesse zéro carence. Ça a l'air presque trop beau pour être vrai.
C'est une très bonne question, parce que cette garantie, elle a des conséquences très visibles, et d'autres, beaucoup plus subtiles.
D'accord.
Les avantages évidents, c'est la performance. Avec un apport nutritionnel constant, optimisé, on a une ponte très régulière, même en hiver, ce qui, au fond, n'est pas naturel.
Ah oui.
On a aussi des coquilles d'œufs bien dures, c'est un bon marqueur de santé. Et puis, il y a le côté pratique, c'est facile à stocker, à distribuer, et surtout, ça évite le gaspillage.
Oui, l'article insiste beaucoup là-dessus, que les poules sont des championnes pour trier la nourriture.
Exactement.
Si on leur donne un mélange de graines, elles mangent le maïs, le blé, ce qu'elles préfèrent, et elles laissent le reste.
C'est ça. Avec le granulé, impossible de faire la fine bouche. Tout est aggloméré. C'est un peu comme forcer un enfant à manger ses légumes en les mixant dans la soupe.
C'est une bonne image.
L'efficacité est là, mais on perd le plaisir de choisir. C'est pour ça que la source parle de solution tranquillité d'esprit. Pour un débutant qui a peur de mal faire, c'est une sécurité.
Et cette tranquillité, elle repose sur quoi scientifiquement?
Elle repose sur le fait que ces acides aminés, la lysine et la méthionine, sont dits essentiels. Ça veut dire que la poule ne peut pas les fabriquer elle-même.
D'accord, elle doit les trouver dans son alimentation, obligatoirement.
Impérativement. S'il y a une carence, toute la production de l'œuf est affectée, et même la qualité du plumage. Le granulé, lui, il standardise et il sécurise cet apport critique.
Bon, sur le papier, c'est la solution parfaite. Mais l'article est aussi très clair sur le revers de la médaille.
Bien sûr.
Le premier inconvénient, c'est qu'on reste totalement dépendant de l'industrie agroalimentaire. Et ça a un coût, surtout le bio.
Un coût non négligeable, oui.
Et puis, il y a l'impact écologique. On achète un sac bio, mais ce granulé, il a souvent beaucoup voyagé. Il contient du soja qui est souvent importé pour atteindre ce fameux taux de protéines.
Et c'est là qu'on touche à une vraie contradiction. On prend des poules pour se reconnecter à la nature, pour un circuit court, et on finit par les nourrir avec un produit ultra transformé qui a peut-être fait le tour du monde.
C'est vrai que ça questionne la cohérence de la démarche.
L'efficacité est là, c'est indéniable. Mais on s'éloigne un peu de l'idéal d'un système local et résilient. Et l'article aborde un autre point que je trouve fascinant, l'ennui alimentaire. Ah, ça, c'est capital.
L'idée qu'une poule puisse s'ennuyer parce qu'elle mange trop vite, ça change tout. Une poule, dans la nature, elle passe 60 à 90% de son temps à chercher sa nourriture.
C'est son travail à plein temps. Gratter, retourner les feuilles.
Et si on lui donne une gamelle de granulés qu'elle vide en 10 minutes, que fait-elle du reste de sa journée?
Eh ben, elle s'ennuie. Et comme beaucoup d'animaux intelligents qui s'ennuient, elle peut développer des troubles du comportement.
Comme le piquage?
Le piquage, exactement. Les poules s'arrachaient plumes les unes aux autres, parfois jusqu'au sang. C'est un signe de stress, de manque de stimulation. Le granulé, c'est une réponse d'ingénieur à un besoin biologique.
Alors que la permaculture chercherait une réponse.
Écosystémique.
Voilà. Et justement, cette réponse, l'article la présente comme l'opposé total. l'autonomie, la poule qui redevient un maillon de la chaîne, le rêve de tout permaculteur.
L'image est séduisante en tout cas.
On nourrit ces poules avec les restes de la cuisine, les mauvaises herbes, on les laisse dans le compost. C'est le principe de boucler la boucle.
C'est ça. La poule devient l'alliée du jardinier. Elle transforme nos déchets, nos épluchures, en deux produits d'une valeur incroyable.
Les œufs.
Des protéines de très haute qualité, oui. Et ces fientes que l'article appelle joliment l'or noir. C'est un des meilleurs fertilisants qui soit. On est dans un système où plus rien ne se perd, et pour le bien-être animal, on est à des années-lumière du granulé. L'article utilise des mots qui donnent envie. Gratter le sol, chasser un ver de terre, déchiqueter une feuille de blette. La poule exprime ses comportements naturels. Elle est active, stimulée. Et ça, ça se ressent dans l'assiette.
Ah oui, la source le dit bien. Beaucoup d'éleveurs qui suivent cette méthode parlent d'œufs au goût incomparable, avec des jaunes beaucoup, beaucoup plus foncés. C'est logique, en fait.
Oui, la diversité de l'alimentation se retrouve dans l'œuf. Une poule qui mange des herbes, des fleurs, des insectes, elle ingère une palette de nutriments et de pigments, les caroténoïdes, qu'on n'aura jamais dans un aliment standard.
D'accord.
Mais il y a un autre avantage, plus subtil, que l'article met en lumière. C'est le lien que ça crée.
Le fait de devoir les nourrir à la main tous les jours.
Oui, au lieu de remplir une grosse trémie une fois par semaine, on est obligé d'être là matin et soir.
On est plus présent.
Exactement. Et ce rituel quotidien devient un formidable outil de gestion. En les observant se ruer sur la nourriture, on repère tout de suite celle qui reste en retrait, celle qui a l'air un peu malade.
On détecte les problèmes beaucoup plus vite.
Bien avant que ça ne devienne grave. C'est une gestion proactive basée sur l'observation. On sent son troupeau.
Mais, et là, l'article met un gros panneau. Attention, cette belle image a un côté sombre. Il y a ce que la source appelle le grand piège.
C'est le paradoxe.
On pense bien faire en donnant tous nos restes, mais on peut faire de grosses erreurs.
Le piège le plus courant, c'est de les gaver de glucides. Nous reste, c'est souvent quoi, Evelyne ? Du pain, des pâtes, du riz.
Des choses qu'elles adorent en plus.
Elles adorent ça, mais c'est très pauvre en protéines. Or, pour fabriquer un œuf, qui est une bombe de protéines, la poule a des besoins énormes. Le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des poules qui engraissent.
La fameuse poule grasse qui ne pond plus.
Voilà, elle devient obèse et elle arrête complètement de pondre. On lui donne beaucoup à manger, mais pas ce dont elle a besoin.
Donc cette autonomie, ça ne s'improvise pas du tout en fait, ça demande de vraies connaissances.
Ça demande du temps, du travail et des connaissances. Il faut parfois cultiver des plantes juste pour elle ou même se lancer dans l'élevage d'insectes, comme les vers de farine pour l'apport en protéines.
Ah oui, carrément.
Et surtout, il faut une stratégie pour l'hiver. Ça, c'est le point le plus critique de l'article. En hiver, c'est la double peine.
Pourquoi ?
Les besoins énergétiques de la poule augmentent pour lutter contre le froid et en même temps, les ressources du jardin disparaissent. Plus d'insectes, quasiment plus de verdure.
Donc si on n'a rien prévu, c'est la catastrophe.
C'est la carence quasi inévitable. Si l'éleveur n'a pas anticipé avec des graines germées, de la levure de bière, des pâtés tièdes, la ponte s'arrête net et la santé des animaux peut se dégrader très très vite.
Alors on est coincé ? Entre une solution industrielle efficace, mais qui manque un peu d'âme, et un idéal naturel magnifique, mais quasi impossible à atteindre pour un amateur ?
Heureusement, non. L'article suggère qu'il n'y a pas besoin de choisir son camp de manière si radicale. Il présente une troisième voie.
La voie du milieu ?
Celle des permaculteurs pragmatiques. L'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, si je puis dire.
J'aime bien. Une approche hybride, en somme. Comment ça marche, concrètement ?
C'est une stratégie en trois points. D'abord, on fournit une base de sécurité. Ça représente à peu près la moitié ou 60% de leur alimentation.
Et cette base, ce sont les granulés ?
Des granulés bio ou un bon mélange de céréales, oui. Disponibles le matin ou en libre-service. C'est le filet de sécurité. Ça garantit que leurs besoins fondamentaux sont couverts, quoi qu'il arrive.
D'accord, on assure le minimum vital. Et ensuite, on complète.
Voilà, c'est le deuxième point. Les restes de cuisine, les déchets du potager, on les valorise toujours. Mais leur statut change. Ce n'est plus le plat principal.
Ce sont des compléments, des friandises.
C'est ça. La nuance est cruciale. Ça apporte de la variété, de l'occupation, du plaisir. Mais on ne compte plus dessus pour l'équilibre de base. C'est la différence entre un repas et un dessert.
C'est très clair. Et le troisième pilier de cette méthode Hides ?
C'est la partie la plus permaculture. On met en place des systèmes pour produire soi-même des compléments riches, surtout en protéines.
Par exemple ?
L'article donne deux exemples géniaux. Le premier, donner aux poules un accès contrôlé au tas de compost. En grattant, elles vont l'aérer, mais surtout, y trouver une source incroyable de protéines vivantes. Des vers, des larves.
Des vers, des larves, d'insectes, des cloportes, tout ça.
Le deuxième exemple, c'est de faire germer les grains. En faisant germer du blé ou de l'orge, on démultiplie leur valeur nutritive.
Ah, c'est malin ça.
L'amidon se transforme, des vitamines apparaissent. C'est un moyen très simple de leur donner de la verdure vivante et des nutriments de haute qualité, même en plein hiver.
Donc on combine la sécurité de l'industriel avec l'intelligence du naturel.
C'est une véritable stratégie de résilience. On minimise les risques tout en réduisant sa dépendance, son budget, son impact écologique. Mais le plus grand bénéfice de cette approche, et l'article conclut là-dessus, c'est qu'elle oblige l'éleveur à devenir un excellent observateur.
Parce qu'il n'y a plus de règles fixes, il faut constamment ajuster.
Précisément, on n'est plus dans l'application aveugle d'une recette, on est dans un dialogue permanent avec ces animaux. On doit regarder les indices. Les coquilles sont solides, le plumage est brillant, les poules sont vives.
Ça devient un vrai tableau de bord.
Exactement. Et en fonction de ce qu'on observe, on ajuste le curseur. Un peu plus de granulés s'il fait très froid, un peu plus d'accès au jardin si la saison est riche, on apprend à lire le vivant.
Alors, si je résume, il n'y a pas de solution miracle, mais plutôt une solution adaptée à chaque situation.
C'est ça.
Pour la productivité maximale et la simplicité, les granulés bio restent une option très efficace. Pour l'idéaliste qui vise l'autonomie totale, le 100% naturel est un but magnifique, mais qui demande un vrai investissement.
En temps et en connaissance, oui.
Et pour la grande majorité des gens, avec quelques poules dans leur jardin, l'approche mixte semble la plus sage et la plus équilibrée.
C'est la plus résiliente. Elle permet de s'engager dans une démarche plus écologique, plus connectée à ses animaux, sans prendre de risques pour leur santé.
C'est une conclusion très claire. On a les éléments pour faire un choix qui correspond à ses objectifs, à son mode de vie.
Et ça me fait penser à une chose, au fond. L'article se concentre sur le comment, sur les aspects techniques. Mais notre discussion montre que ce choix, il définit aussi la nature de la relation qu'on tisse avec ces animaux.
C'est vrai.
La question à se poser n'est peut-être pas seulement « comment nourrir au mieux mes poules ?» mais plutôt « quel rôle est-ce que je veux que mes poules jouent dans mon écosystème personnel ?»
C'est une bonne question.
Sont-elles des unités de production qu'on optimise avec un carburant standard ou sont-elles des partenaires dans un cycle vivant avec qui on interagit au quotidien ?
La réponse à cette question, plus philosophique, pourrait bien être le meilleur guide pour choisir ce qu'on mettra dans leur mangeoire demain matin.